Cédric Villani, alors dans le cadre de ces chroniques d'été consacrées à Henri Poincaré à l'occasion du 100e anniversaire de sa mort, nous avons appris, grâce à vous, qu'il était évidemment un très grand mathématicien, mais aussi un grand homme de science, sans oublier le philosophe. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le citoyen, car Henri Poincaré était aussi quelqu'un qui pouvait prendre parti, qui pouvait s'engager.
S'engager quand il y avait lieu. Et effectivement, nous avons, au début du XXe siècle, la terrible affaire Dreyfus en France. Celle qui divise tout le monde, l'affaire, comme on l'appelle, où le capitaine Dreyfus, condamné pour trahison, dégradé et déporté, se retrouve mis au banc de la société alors que sa culpabilité ne repose sur rien de tangible et alors même que le vrai traître est démasqué, mais que l'armée s'obstine dans sa première décision.
Une histoire qui a eu des rebondissements sur le plan politique considérables.
Des rebondissements considérables sur fond d'antisémitisme, bien sûr, et qui a beaucoup animé le débat sur la place de l'armée, des questions d'honneur, qui a profondément divisé à l'époque. Et le débat était organisé pour l'essentiel sur des éléments irrationnels, mais aussi sur des éléments que certains pensaient rationnels, que certains croyaient scientifiques, et en particulier le rôle controversé du célèbre criminologue Alphonse Bertillon, le père de l'anthropométrie judiciaire. Il avait mis au point contre Dreyfus une thèse dite de l'auto-forgerie selon laquelle Dreyfus aurait imité sa propre écriture pour confondre les enquêteurs. Et il appuyait sa thèse par de savants calculs de probabilité qui impressionnaient beaucoup certains. C'est ici qu'interviennent les scientifiques, en particulier Henri Poincaré. Henri Poincaré, en quelque sorte mandaté par la communauté de l'époque, en particulier le jeune Painlevé, mathématicien de talent et aussi homme politique de premier plan, pour faire cesser la campagne assassine menée par Bertillon. Alors, faut bien représenter tout ce que ça pouvait avoir d'inhabituel, de non naturel pour Poincaré, ça. Poincaré, au plan politique, il était prudemment conservateur, issu d'un milieu bourgeois.
C'est ça, oui.
Et puis, moins il était sur la place publique et mieux il se portait. Mais là, quand on vient lui présenter les arguments scientifiques, entre guillemets, présentés contre Dreyfus, il est scandalisé. Et il rédige un rapport incendiaire qu'il adresse au tribunal. Il parle d'erreurs colossales, de scandales. Il est impossible qu'une pareille argumentation fasse quelque impression sur des hommes sans parti pris qui ont reçu une éducation scientifique solide. Ainsi parle Poincaré. Au même moment où il travaille sur les lois de la relativité, et donc à explorer les mystères de l'infiniment grand dans un monde théorique, il travaille aussi à rétablir la vérité dans cette affaire Dreyfus. Assisté de Darboux et Appel, un trio de mathématiciens que la presse dreyfusarde présente comme les meilleurs mathématiciens du monde, il présente ses conclusions et indique que Bertillon a raisonné mal sur des documents faux. Bien sûr, il s'attire les sarcasmes de la presse anti-dreyfusarde.
Bien sûr. Est-ce qu'il était ami avec Zola?
Pas que je sache. Je dois avouer n'avoir pas creusé la question. C'était des façons de voir résolument différentes. L'un et l'autre ont été en contact avec le monde de la mine. Et l'on décrit. Zola a fait ces pages qu'on connaît bien, Germinal et tout cela, où il a ouvert les yeux de gens sur la condition de l'ouvrier, la nécessaire remise en cause de toute la société.
Oui, donc ils ont pris conscience de l'injustice sociale.
Et Poincaré, lui, avait été l'une des premières missions qu'il avait eu à exécuter en tant qu'ingénieur, c'était faire un rapport d'enquête à la suite d'un accident dans une mine, un coup de grisou. Toute sa vie, ça a travaillé cette question de comment empêcher tels accidents, comment éduquer les gens, leur apprendre la prudence. Mais là où Poincaré voyait les choses comme des améliorations par petites touches de bon sens consensuel, Zola, lui, voyait un changement beaucoup plus radical. Ils avaient des approches différentes de l'action politique, on va dire. Et disons que ce qui est intéressant aussi, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'autorité qu'ils ont acquise dans leur domaine respectif, comme ça a été important pour l'affaire Dreyfus. Poincaré, en tant que meilleur mathématicien de son époque, reconnu, a eu un poids considérable quand il a dénoncé les erreurs scientifiques commises à l'encontre de Dreyfus. Et Zola, avec tout le poids qu'il avait en tant qu'écrivain, a pu s'engager dans le débat avec beaucoup plus de force qu'un homme politique ou qu'un spécialiste, qu'un journaliste aurait pu le faire.
Merci Cédric Villani. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une dernière chronique de l'été consacrée cette fois-ci à Alan Turing, très grand mathématicien lui aussi, qui est né, je crois, l'année de la mort d'Henri Poincaré.
Oui, 1912, Poincaré meurt, Alan Turing né. On est dans la continuité et en même temps dans la révolution.
À vendredi prochain.